j'ai un peu
mal. D'accord. L'Exode. C'est surtout après la terrible nuit où Saint-Lô, à 15 km, a été bombardé que les choses sont devenues plus graves. Car le 6 juin au soir, quand les bombes sont tombées, Saint-Lô a brûlé pendant plusieurs jours. Le vent étant nord-nord-ouest, tous les papiers de la ville en feu venaient avec la fumée, aussi bien de la préfecture que de tous les bureaux. Même les cartes de pain et tickets de toutes sortes qui étaient réduits en cendres tombaient, tapissant le ciel. On voyait encore les chiffres, mais c'était de la cendre. C'est la force du feu qui les envoyait avec la fumée. Il fallait penser à ceux qui, dessous, ont vécu la peur et la mort sous les bombes de Saint-Lô. Nous étions informés de ces faits par les réfugiés qui passaient avec leurs ballots ou leurs brouettes. Il y avait aussi des gars, pas très bien habillés, qui passaient et demandaient à boire et à manger. Certains ont été repris par les Allemands, certainement dénoncés. On a su plus tard que c'était des espions français qui étaient à l'arrière des lignes allemandes pour donner des renseignements. Ils faisaient un peu peur. Dès qu'ils ont pu s'évader, ils sont partis à l'arrière. Ils avaient travaillé de force à faire des blocos sur le port de Cherbourg. Les travaux ont été très longs, mais il arrivait souvent, lorsqu'ils étaient moins surveillés, que les brouettes de ciment, au lieu de les mettre dans les coffrages, aillent dans la mer. À entendre les réfugiés, on savait bien que cela n'allait pas durer longtemps. Dès que les troupes pourraient avancer, il faudrait bien se préparer à partir nous aussi. Il n'y avait pas de jour sans que l'on voie passer des réfugiés, aussi bien de Saint-Lô que des alentours. Quand ils passaient, ils nous donnaient des nouvelles de plus en plus mauvaises. Et les Allemands devenaient de plus en plus agressifs au fur et à mesure que le front approchait. À partir du 15 juin, on en avait chez nous, dans les appartements de la ferme. Et nous étions tous logés à la même enseigne, ainsi que tous les vieux chemins dans l'entour. Une bonne centaine d'Allemands avec les Mongols, des Russes et autres. Un mois et demi est quand même passé, mais ce n'était pas toujours rose, car les avions ne nous laissaient pas de répit. À peu près tous les jours, ils mitraillaient ou ils bombardaient. C'est le 24 juillet 44, dans la matinée, que fut donné l'ordre à toute la commune de Moyon de partir. Sur l'ordre de l'état-major allemand, tout le monde devait avoir quitté les lieux avant 4 heures, soit 48 jours après le débarquement des Alliés sur nos côtes normandes. C'est le garde champêtre qui passait pour avertir. Les Moyennais de notre convoi de réfugiés, Casimir Renouf, Ferdinand et Louise de la Fosse, Blanche Hervieux et ses enfants Auguste, Thérèse et Louis, Georges et Marie-Louise de la Fosse et leurs enfants, Fernand, André, Georges, Alphonse et Augustine Mauviel et leurs enfants, Eugène, Marie-Thérèse, Roger, Christiane et Bernadette, Louis et Marie-Lise, le chevalier et leur enfant, Casimir, Maria Mauviel, Elisabeth, Fernande, Georgette et Eugène Renouf, Pierre et Marguerite Le Foulon, Charles, René Le Goupil, Désiré et Maria Ledouis, Simone, Yvette, Julia Dufour, Louise et Louis Le Grand, Mère André, trois servantes, Antoinette Gauthier, Madeleine Arrivelle et Madeleine Valette. Plus quatre personnes, la famille Jean Pignet, restées à Percy la deuxième journée. Les Allemands étaient contraints de faire marche arrière. On était partout envahis par les soldats, dont la plupart des SS. Du fait que mon père était mort par accident en Allemagne, étant prisonnier en 1941, nous avons réussi à sauver notre cheval des réquisitions qui avaient lieu souvent, à un mois et demi ou deux mois d'intervalle, aussi bien pour les chevaux que pour les bestiaux, et même les pommes de terre. Les maires n'avaient pas la bonne place, car ils devaient prévoir les réquisitions de chevaux, vaches, veaux, demandées par les Allemands, et même, quand il le fallait, désigner des jeunes à partir pour le travail obligatoire. Certains, avec de faux papiers, ont réussi à passer à côté. En fin de matinée, nous sommes allés voir les voisins pour savoir à quoi s'en tenir, mais tout le monde, sans exception, était sur le départ. Les nouvelles troupes étaient arrivées dans la matinée et s'étaient installées autour de la table à boire tout ce qu'ils avaient sous la main. On a donc empli la carriole sous le regard des soldats allemands, de choses pouvant servir, draps, linge et habits, beurre dont on ne pouvait rien faire, lard, œufs, mais les frigidaires, pas. Donc le tout ne pouvait pas dépasser 2 jours, sur les routes en plein mois de juillet. Tout était enroulé dans les couvertures, à l'abri du regard des Allemands qui prenaient tout.
On ne savait pas où on allait et pour combien de temps. Trop chargés, les enfants allaient à pied. Après avoir rempli la voiture, nous avons fait un tour pour mettre les animaux en liberté. Vaches, veaux, cochons, dont une mère avec ses petits, et même le chien. Nous sommes donc partis, laissant tout, mais le cœur un peu serré. On n'avait pas le choix. Pour nous, il fallait partir par le carrefour Paris, Villebaudon, Percy. Sur la route, c'était un convoi impossible à compter, tellement la route était encombrée de carrioles, tombereaux, vaches, car les cultivateurs avaient emmené une vache ou deux afin d'avoir du lait au cas où on n'aurait rien à manger. Ce qui nous a bien souvent aidé à survivre, car dans les convois, il y en avait qui n'avaient rien d'autre que leur brouette, quand elles n'étaient pas occupées par une personne âgée, infirme, malade ou blessée. Nous avions même emmené un chariot à bras, au cas où il aurait fallu se séparer de la carriole. Le menuisier faisait des chariots en série, en prévision du pire. Nous sommes allés ce soir-là jusqu'en haut de la côte de Percy, exactement en haut de la Binette, puis à droite. Une personne ayant là des amis nous a permis de rester. Plusieurs personnes de la commune se sont retrouvées autour de nous et nous étions le soir 44 accouchés dans la grange ou sous les voitures, entourés d'une trentaine de soldats qui gardaient leur camion, ce qui n'avait rien de réjouissant, bien qu'ils soient très gentils. J'avais sous mon chariot des roues de vélo, dont une était crevée en arrivant à Percy. Nous n'avions même pas de colle pour réparer, si bien que ce sont des soldats qui ont réparé. Les chambres à air et elles ont tenu tout le reste du voyage. La nuit s'est à peu près bien passée. On ne dormait pas à point fermé, surtout que l'on entendait le canon qui grondait sur Saint-Lô à 15 km. Le lendemain, 25 juillet, réveil un peu dur. Pour les 15 ans dont je faisais partie, cela pouvait aller. Mais on avait aussi des gens de 75-80 ans. On est reparti de bonne heure vers les 10 heures. D'autres moyennais qui s'étaient joints à nous pour coucher, ayant vu leur chariot rendre l'âme, sont restés là pour repartir plus tard. Famille Jean Pignet. La famille qui habitait dans la maison des grands-parents, n'ayant plus de toit, a été recueillie par une famille à La Balle, en haut de Moyon. Et c'est là, à l'approche de la bataille, que la maison de leurs hôtes, Eugène Le Calmet, a, elle aussi, brûlé. Denise Vastel gardait les mamans qui avaient eu des bébés. C'est là qu'elle était quand la maison a été bombardée. Georges et sa fille sont partis chez Juliette Oppet, dont le mari était prisonnier, et une autre fille, Georgette, employée. Étant un peu éloignés des voisins, ils n'avaient pas reçu l'ordre de partir. Deux jours plus tard, en entendant les vaches aux alentours qui braillaient pour être traites, ils sont allés voir, mais il n'y avait plus personne. Alors ils sont partis aussi à La Balle et de là ont vu la maison brûler. Le garde champêtre avait oublié quelques maisons. Pour lui, ce n'était pas un plaisir, il avait fait la commune à pied. Ils sont de nouveau partis pour Montabeau. Se trouvant mal placés, vu de loin, ils ont obliqué sur Percy au Mont Fiquet. Et le lendemain, là encore, la maison a brûlé dans un vacarme insupportable. Si bien que les habitants ont dû partir la maison en feu et n'ont même pas réussi à emporter le si peu d'argent et papier dont ils disposaient. C'est de là que sont repartis pour aller plus loin ceux que l'on avait dû abandonner à Percy. Jean Pignet, parce que la grand-mère, qui faisait une phlébite, ne pouvait plus marcher et que leur chariot était resté en panne. De là aussi qu'une personne, les prenant en pitié, leur a prêté un âne qui n'avait jamais attelé, mais qui leur a rendu service. Ils ont été une dizaine de jours partis vers Gavray, où cela a été plus calme. Ils ont redonné l'âne au propriétaire, qui a eu de la chance, car à Percy, la bataille a été très dure, si bien qu'il y a eu beaucoup de morts. Même les troupeaux ont été beaucoup détruits, parfois des fermes entières n'ont pas survécu, et ce, du 2 au 5 août. Mais entre deux, les avions sont revenus à la maison et l'on avait couché tous ensemble, fut pris sous les bombes et les obus, si bien que les habitants ainsi que d'autres réfugiés pris sous le feu ne pouvaient plus bouger tellement la bataille faisait rage. La maison a été entièrement brûlée et les habitants n'ont rien pu sauver, même pas le si peu d'argent qu'ils possédaient. Et là, on peut se demander comment il n'y a pas eu plus de morts ou de blessés. On pense à ce père de famille qui venait de Villebaudon, car là aussi il avait fallu partir, le bourg et les carrefours étaient particulièrement dangereux. Voyant le danger, il a fait descendre ses 6 enfants sur la route, et à genoux, auprès du talus, ils ont récité tous ensemble un acte de contrition. La peur dépassait ce que l'on peut imaginer. Sa maison a été bombardée le lendemain. D'autres réfugiés venant de la chapelle en jugée y avaient passé la nuit. Il était grand temps de partir. Nous, on est partis en début de matinée. On avait deux personnes en vélo qui allaient en éclaireur, André le Grand et Louis le Chevalier. Voir comment cela allait plus loin, puis revenait au-devant de nous. Le bourg de Percy avait été bombardé les semaines précédentes et de nombreux civils étaient restés sous les décombres. Pas beau à voir. On voyait des pieds qui étaient restés là, sans parler des odeurs. À Percy, beaucoup de civils ont trouvé la mort, dont les deux parents Le Bouvier, parents de Pierre. Les enfants, qui étaient très jeunes, ont repris la ferme tous ensemble pour sauver ceux qui restaient. C'est là aussi que Madame Ménildray de Troisgos a eu un bras arraché et sa petite fille tuée sur son bras. Nombreux sont les Moyennais qui s'étaient arrêtés à la Colombe, dont Jean Simon et sa famille. La mère et les enfants ont été blessés. Un avait un éclat près du cœur, impossible de l'enlever. Il est sorti tout seul 2 ou 3 ans plus tard. Là, il y a eu bien des morts et des blessés. Il y avait eu une attaque avant notre passage. 2 camions de munitions brûlaient et le cheval d'un de nos voisins, qui ne faisait pas partie de notre équipe, était tombé sur la route avec une balle derrière l'épaule. La carriole était restée sur la route. Le frère de cette personne habitant la Colombe était marchand de produits vétérinaires et l'a soigné. Il s'en est tiré avec que le temps. Jusqu'à la traversée de Villedieu, pas de problème. À la sortie de Villedieu, alors que le convoi de réfugiés ne cessait de s'allonger, nous avons été pris à partie par 4 avions américains qui s'en prenaient à la ligne de chemin de fer et à la gare. Dans le convoi, des sidecars allemands se glissaient parmi nous, ainsi que 2 ou 3 voitures. Les laissant sur place pour aller se blottir dans le pied du talus. Sur le côté gauche de la route, 2 ambulances de la Croix-Rouge allemande descendaient vers Villedieu avec des blessés car le sang coulait sur la route. Arrivé au passage à niveau sur la route de Chérancé, une bombe est tombée près de la première voiture du convoi, l'empêchant d'aller plus loin. Il n'y a pas eu de blessés, mais la grand-mère, mère Mauvielle, qui était assise sur le devant du chartil, était comme la voiture, retournée de terre et poussière, donnant un peu envie de rire pour nous les jeunes. Si cela n'avait été la guerre, cela nous aurait bien amusés. La route étant à moitié coupée, il a fallu faire demi-tour et nous retourner sur nos pas. Nous avons pris la route de Sainte-Cécile et à quelques 100 mètres, nous sommes entrés dans un champ de pommiers, alors que les avions tournaient toujours au-dessus de nos têtes. Comme j'étais déjà un grand, je fus désigné pour aller demander à la fermière la permission de camper sous les pommiers. C'est à peu près l'endroit où est l'abattoir de Sainte-Cécile à ce jour. La dame me fit comme réponse « Moi, je veux bien, mais hier, les avions sont déjà venus et derrière, il y a eu 18 morts ou blessés. » Pas très encourageant. Un couple de ceux qui étaient avec nous est allé à une maison toute proche de l'endroit où nous étions pour demander de l'eau. « Prenez ce que vous voulez, mais voyez la journée d'hier. » La dame a ouvert une porte et dans une grande salle, 12 cercueils étaient alignés, plutôt froid dans le dos. Là, on a ouvert les valises et sur toutes les voitures, on a étendu un drap blanc afin de faire voir aux avions que nous étions des civils. Après, on a cassé la croûte car il était déjà tard et pas gros appétit. Après manger, on a repris la route, cette fois en direction de Chérance-le-Héron. La route avait été remise en état par les Allemands. À 10 kilomètres, nos éclaireurs avaient rencontré un marchand de bestiaux, M. Arthur, bien connu par chez nous, dont la maison était grande, à droite avant Chérancé, mais occupée par les Allemands, et leur dit « Ils font leurs bagages et s'en vont sur Saint-Lô, vous pouvez passer la nuit ici. » Et de fait, quand nous sommes arrivés vers 20h, les derniers partaient et avaient même laissé de grandes marmites de soupe, nous disant que c'était pour nous. Mais personne n'a voulu en manger. 2 femmes furent désignées pour être les cuistots. Nous étions toujours 44 à nourrir. Elles nous ont fait une soupe qui a fait du bien. Une autre équipe a fait la vaisselle et chacun a étalé ses matelas afin de se reposer un peu. Pendant ce temps-là, nous sommes allés couper de l'herbe pour donner aux chevaux et aux vaches, mais avons été obligés de nous mettre à l'abri sous une haie car les avions sont revenus sur la gare de Villedieu et venaient tourner au-dessus de nos têtes. 2 ou 3 jours auparavant, ils avaient lancé 80 bombes dans un pré en face, juste à côté de la route, alors qu'ils la prenaient pour cible. Et certains disaient « S'ils reviennent cette nuit, nous serons aux premières loges ». La nuit a été à peu près calme, à part quelques tirs de DCA au passage des avions. Des résistants de Villedieu avaient fait parvenir aux Anglais un message disant qu'il fallait protéger Villedieu car il n'y avait pas d'Allemands en ville, ce qui la sauva du désastre que Saint-Lô et Perçu avaient connu. Au matin du 26 juillet, nous avons repris la route. Dans les virages après Chérancé, deux camions brûlaient. L'attaque ayant eu lieu dès le matin, nous n'avons rien vu, sauf les dégâts. Les rations commençaient à diminuer. Les arrivées à Bressé, nous avons été reçus par les équipes qui avaient organisé un centre d'accueil à la mairie. Même si tout le monde ne mangeait pas à sa faim, c'était déjà pas mal. À Bressé, dans les écoles où était le centre d'accueil, il y avait des tableaux sur le mur où tous ceux qui étaient de passage devaient mettre leur nom, d'où ils venaient et, s'ils le savaient, l'endroit où ils devaient aller. Beaucoup ont retrouvé sur ces tableaux la trace de leur famille ou de leurs amis. Les réfugiés ayant défilé pendant plusieurs jours, ils ne pouvaient pas nous garder, si bien qu'il a fallu reprendre la route et aller plus loin, direction Montigny, en nous invitant à s'arrêter au centre d'accueil qui pourrait nous recevoir. Après Bressé, il y a une côte qui est très longue, on nous a dit au départ 7 km de montée. Aux trois quarts de la montée, il y a une maison à gauche et l'on avait envie de boire un coup car il faisait chaud. Les bêtes avaient soif et nous aussi. J'ai été demander à la dame, qui était d'ailleurs très gentille, de l'eau pour nos bêtes. Elle nous a proposé du cidre et nous a donné tout ce que l'on voulait. Elle nous a dit aussi que son mari, qui était sabotier, était prisonnier en Allemagne. Un an après, je suis repassée par là en retournant sur le lieu de notre hébergement pour lui dire merci encore une fois. Son mari était rentré 3 mois auparavant et tout était pour le mieux. Et de fait, à Montigny, nous avons été bien accueillis et tout le monde a pu manger et coucher dans l'école, au moins pour ceux qui n'avaient pas de bestiaux. Mais ne pouvant nous garder avec les chevaux et les vaches, et vu que d'autres réfugiés arrivaient derrière nous, nous avons été divisés dans plusieurs fermes alentour. Nous, on était sur la route du Ménilbeu. Le soir, les avions sont revenus de nouveau à la recherche d'on ne sait quel convoi, alors que l'on était avec les gars de la ferme à couper du trèfle pour les chevaux. On s'est vite mis à l'abri sous la voiture, alors que les gars étaient restés à regarder les avions. C'était la première fois qu'ils voyaient les chasseurs au boulot, alors que pour nous, cela faisait 2 mois que cela durait. La nuit fut à peu près calme. Le 27 juillet, nous sommes restés à Montigny, en allant manger midi et soir au centre d'accueil. Mais le soir, les responsables nous ont prévenus qu'en raison de l'arrivée de nouveaux réfugiés, il nous faudrait repartir le lendemain en direction de la Mayenne. Le 28 juillet au matin, on a repris la route en direction de Saint-Hilaire. Ce ne fut pas toujours rose. Nous avons pris la route de Ménilbeu au premier carrefour. Nous sommes partis à gauche afin de rejoindre la grande route Bressé-Saint-Hilaire. Arrivés au Petit Jésus, les choses se compliquent car nous sommes de plus en plus surveillés par les avions. Si bien que 2 kilomètres après, pendant un quart d'heure sans arrêt, les avions nous ont survolés de très près. Les ailes des 4 avions, car ils passaient toujours à 4 ensemble, rasaient le dessus des carrioles. Une aile était entre la ligne électrique et la ligne téléphonique, mais aucune balle n'a été tirée. Les draps sur les voitures y étaient sûrement pour quelque chose. Arrivé près de Saint-Hilaire, le pont qui est sur la route de Ducé-Saint-Hilaire étant coupé, il nous a fallu passer en arrière, avant le pont du chemin de fer qui traverse la route. Passé derrière une ville qui n'était que ruine et dans laquelle l'odeur des morts ensevelis sous les décombres faisait froid dans le dos. Au carrefour central qui était à peine déblayé, on est passé tout droit car on devait partir pour Goron en Mayenne et par les petites routes. À la sortie de Saint-Hilaire, nous avons pris à droite en direction de Savigny-le-Vieux pour ne pas prendre la grande route. À Saint-Hilaire, le prêtre venait d'être tué dans une tranchée avec 12 personnes de sa famille et l'église brûlée entièrement. Les cloches étaient fondues. Les Allemands en avaient fait un dépôt d'essence. Sur cette route, à 4 km environ, nous avons rencontré un prêtre en vélo. C'était l'abbé Lewix, curé de Moulines et originaire de Troisgau, tout près de chez nous, qui avait entendu que des réfugiés venant de Moyon s'en allaient sur la Mayenne. Avec sa bicyclette, il a fait les routes et nous a trouvés, nous conduisant au bourg de Moulines où un centre d'accueil a été mis sur pied. Nous avons mangé Nous avons mangé car on en avait besoin. Le soir, nous avons dormi à 44 dans un grand bâtiment qui était dans le bourg. Sur ces 44 personnes, nous étions encore 20 vivants en 2001. Le samedi 29 a passé en mettant un peu d'ordre dans les bagages. Là, à mon étonnement, j'ai retrouvé la compagnie de soldats qui était chez nous 15 jours avant, mais n'avait plus leurs chevaux et était en compagnie motorisée. Alors qu'on les regardait passer, la dame du café nous dit « Laissez-les passer ». Ici, il y a de la résistance. Il est interdit de parler aux Allemands afin de ne pas être pris pour des collabos. On les a bien laissés partir, mais je me souvenais qu'ils nous avaient dit « Quand nous partir, madame, voiture Auguste Cheval, venir avec nous ». Ma réponse avait été « Mais tu ne m'as pas regardé, faut pas y compter ». Le dimanche 30, tout était calme et tout le monde est allé à la messe. Je me souviens encore du cantique que l'abbé avait mis à jour en attendant le retour des prisonniers. Vierge, notre espérance, étends sur nous ton bras et fais rentrer en France tous ceux qui sont là-bas. Le principal organisateur du centre d'accueil était un jeune de 19 ans, qui est rentré au séminaire un an après et qui est devenu l'abbé juin en 1951. Il habitait dans sa famille au Douai-Allant à Moulines. Mais on ne pouvait pas rester toujours au centre et le lundi 31 juillet, nous sommes partis dans les fermes. Chacun proposait la place dont il disposait, si bien que nous avons été dirigés au Douai-Allant, alors que les autres familles étaient logées dans les environs, sur la route qui va aux loges Marchy. Mais nous étions les seuls à coucher dans un lit. Là, le travail à la ferme continue, si bien que nous avons été pendant la semaine, suivant leurs besoins, les aider à faucher le grain et le mettre en gerbe. Les 1er, 2 et 3 août, pas grand-chose que je me souvienne. Le 3, un avion de reconnaissance est passé au ras des arbres, sans trop savoir le pourquoi, au moins pour nous. Le 4, je crois, on nous avait dit que les Américains étaient là, mais arrivés au carrefour de la grande route, il n'y en avait qu'un seul, qui attendait de savoir si le passage était libre, car une batterie allemande était plus loin sur la route et l'on entendait les obus qui sifflaient en passant au-dessus de nous. Une personne qui était réfugiée de Saint-Hilaire et parlait anglais servit d'interprète. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, une nuée de soldats d'infanterie à pied descendit en pleine route. Combien? On ne peut pas le dire. Des centaines? C'était des hommes de la 358e compagnie du 90e régiment qui ont fait Saint-Hilaire-Goron à pied, soit 40 km, pour aller ensuite jusque dans la Mayenne pour refaire un pont. Quand ils ont été passés, nous sommes retournés chez nos hôtes, qui d'ailleurs étaient avec nous. Et à notre surprise, sur la petite route, c'était tout le matériel qui passait. Camions, tanks, canons, munitions, essence et matériel de toutes sortes. Si bien que tout le monde est allé à la cave et a distribué et versé du cidre bouché aux soldats pendant on ne sait combien de temps, au moins 2 heures. Pour la première fois, on voyait le matériel américain. À part le petit mouchard qui était passé la veille, mais là, il n'y avait pas d'Allemands dans le secteur. C'est ce jour-là que l'on a appris que Moyon était libéré avec beaucoup de dégâts. Pour revenir au 2 ou 3 août, je me souviens qu'un soldat allemand est venu chez M. Juin avec un vélo français qu'il avait pris par ailleurs. Laissant le vélo sur place, il est reparti avec une jument. Quelqu'un est venu lui dire où elle était. M. Juin prend le vélo et après une négociation, a réussi à revenir avec sa jument. Elle est restée à l'abri pour ne pas être vue. Je crois que ce soldat avait compris que de toute façon les carottes étaient cuites. Le samedi 5, les éclaireurs sont repartis pour Moyon, voir les dégâts et aux renseignements.